Si Pâques n'existe pas, s'il n'y a pas de résurrection à célébrer, alors on peut tous aller jouer au tiercé, aller à la pêche, faire les courses, mais on n'a rien à faire ici. Voilà, donc je vais simplement aujourd'hui regarder un peu qu'est-ce que c'est que cette fête de Pâques. Il y a pas mal de confusion. Lorsque l'on fait des sondages auprès des gens dans la rue, auprès des étudiants, et qu'on leur demande qu'est-ce que c'est que Pâques, pour certains c'est un long week-end, pour d'autres c'est la fête où l'on mange des chocolats, pour d'autres c'est la fête où on mange du gigot d'agneau, et encore pour d'autres c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que Pâques ? Pâques, c'est le 25 avril. Ça serait facile hein, si c'était toujours la même date. Mais ça change tout le temps, vous avez remarqué ? Pâques, ça change. Noël s'est fixé une bonne fois pour toutes. En fait, la Pâque juive, on va parler un peu de la Pâque juive, c'est une fête fixe qui tombait le 15e jour du mois de Nisan, qui était basé sur le cycle lunaire simplement. Mais la célébration chrétienne fait référence au cycle solaire, et c'est très simple, la date de Pâques, ça tombe le premier dimanche, après la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. C'est facile. Donc l'an prochain, ce sera quelle date ? C'est pour ça que ça varie tout le temps. L'équinoxe de printemps, c'est un symbole de renaissance, de renouveau. C'est associé au printemps, c'est là que les jours commencent à être plus longs. Équinoxe, c'est-à-dire que le jour et la nuit sont à égalité, mais le jour l'emporte. Et notre prière, c'est que la lumière de Dieu l'emporte dans nos vies. La fête de Pâques, c'est un symbole aussi de renouveau, de vie. Si bien qu'en fait, cette fête, elle peut tomber au plus tôt le 22 mars et au plus tard le 25 avril. Cette année, on est dans la moyenne. Ça, c'est Pâques au niveau de l'astronomie. Maintenant, il y a Pâques au niveau de l'Ancien Testament. Et je vous invite à pour comprendre un peu Pâques, à lire avec moi le livre de l'Exode. Nous allons nous tourner au chapitre 12 du livre de l'Exode, c'est page 67 dans la Bible à la colombe. Et nous allons lire et commenter les versets 1 à 20. Vous vous souvenez que les Juifs étaient esclaves en Égypte. Dieu avait demandé à Moïse de libérer son peuple en le chargeant d'aller demander leur liberté au roi d'Égypte, lui et son frère Aaron. Mais le pharaon ne voulait pas se débarrasser, perdre une main-d'œuvre bon marché et très efficace qu'il utilisait pour construire ses grands monuments. Et Dieu a permis alors à Moïse d'invoquer des grandes calamités, ce qu'on appelle des grands malheurs ou des fléaux ou des plaies sur l'Égypte, au nombre de 10. Alors vous vous souvenez, on va pas regarder ça en détail, il y a eu l'eau qui était changée en sang, il y a eu des invasions de grenouilles, de puces, de moustiques, de mouches piquantes, les troupeaux sont tombés malades, les gens avaient des ulcères sur la peau, la grêle est tombée, les sauterelles ont tout mangé. La nuit noire pendant 3 jours, et puis finalement la mort des premiers-nés. Et c'est là que nous allons commencer, verset 1 du chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. » Nouveau commencement donc. Elle, il y avait une année civile qui commençait en septembre-octobre, mais là, ce sera le premier mois de l'année religieuse. Verset 3, « Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin, le plus proche de la maison. Selon le nombre des personnes, vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. » Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Et donc, le 10 de chaque mois de ce mois-là, le père de famille devait aller dans son champ, dans son étable, pour y sélectionner un joli petit agneau, bien fait, sans aucun défaut physique. Il était gardé jusqu'à 14e jour dans la famille. On peut s'imaginer que les enfants s'étaient attachés en ces quelques jours à cette jolie petite boule de laine qui faisait bé. Mais le 14e jour, bé ou pas, l'agneau était sacrifié. Égorgé, un coup de couteau dans la carotide, il se vidait de son sang et il était ainsi sacrifié. Verset 7, « On prendra de son sang et l'on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, verset 8, « On en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. » Et donc le sang était recueilli et on le mettait sur le chambranle, sur l'encadrement de la porte d'entrée. On en mettait un peu en haut, un peu sur les côtés, il tombait. Et on mangeait des pains sans levain, c'est ce qu'on appelle les pains azim. Vous avez sans doute entendu cette expression. Pourquoi ? Parce que d'abord on n'avait pas le temps de laisser monter la pâte. Pour partir, il fallait être prêt à partir à la hâte pour quitter l'Égypte. Mais aussi, le levain, ce qui est un agent de fermentation, vous savez, ces jolies bulles d'air qu'on trouve dans une belle baguette, en fait, c'est du gaz qui résulte d'une putréfaction. Je vous gâche l'appétit, là, pour aujourd'hui. Le levain... Il est comparé au péché. Il corrompt toute la pâte. Un peu de péché corrompt toute une communauté. Ma vie, mais celle des autres aussi. Il y avait des herbes amères, parce que c'était un rappel des souffrances endurées. Verset 9, « Vous ne le mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. » Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Donc une sorte de méchoui, on connaît ça dans la région, mais il fallait rien laisser. Verset 11, voici comment vous le mangerez, une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Il n'était que de passage. Ils étaient habillés, prêts pour partir, pour voyager. Ils avaient les vêtements relevés pour pouvoir marcher, les sandales aux pieds et les bâtons de marche. C'était manger comme un casse-croûte, comme on dit en français. Et le verset 12 nous dit « Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. « Je suis l'Éternel. » Verset très important à ne pas négliger. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous et il n'y aura pas sur vous le fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. » Et en fait, c'est de là que vient le mot « Pâque ». En hébreu, le mot « péchar » qui veut dire « sauter, passer par-dessus. » Les Anglais ont bien traduit ça, qui disent « pass over », passer par-dessus. La Croix-Rouge fait justement allusion à l'origine biblique de la croix. La Croix-Rouge, c'est un signe qu'on ne doit pas frapper. Un véhicule qui a une croix rouge, normalement, les soldats en conflit ne doivent pas tirer dessus. Les hommes ont essayé de mettre au point des accords de conduite pendant les guerres, ce qui est un peu futile et vain quand on est en guerre, qu'on a de la haine, qu'on veut tuer, qu'on veut détruire. Les règles de bonne conduite, souvent, on les ignore, mais elles existent. Ce sont les accords de Genève pour la guerre. Et une de ces règles, c'est que lorsqu'un avion, un bombardier, voit sur le toit d'un bâtiment une croix rouge, ça signifie normalement que c'est un hôpital et qu'il doit passer par-dessus. Il ne doit pas le détruire. Ça, c'est une première chose. Il est dit que le sang vous servira de signe. Un signe de quoi ? Un signe de douleur ? Un signe de... Nous avons été plusieurs à revoir ici le film sur la Passion du Christ. Et on a vu du sang couler, n'est-ce pas ? On a vu beaucoup de sang couler. Et ce sang qui a coulé, c'est aussi un signe. C'est un signe que le jugement a déjà été exécuté. Le sang nous dit qu'un agneau a été sacrifié ici. Le jugement qui devait tomber sur le fils aîné, vous vous souvenez, cette dernière plaie d'Égypte, ce dernier fléau, c'était que l'aîné des enfants, mâle, d'une famille, était mis à mort par l'ange exterminateur, par l'ange de l'Éternel. Mais si l'ange de l'Éternel voyait le sang sur la porte de la maison, alors il savait que le jugement qui devait tomber sur le fils aîné était déjà tombé sur l'agneau. Et le jugement ne peut pas tomber une deuxième fois, une fois seulement. Verset 22 nous parle du sang. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul ne vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Et c'est intéressant, lorsqu'on y regarde de près, cette description nous dit qu'en fait, le sang faisait une forme de croix. Il partait du linteau, il descendait, il coulait, il s'égouttait, il tombait. Il y avait du sang sur les deux côtés. C'était comme une croix rouge qui préservait ce qui était à l'intérieur. Verset 14, revenons à notre texte. « Ce jour-là sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons. » Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au septième jour, sera retranchée d'Israël. Ça, mesdames, messieurs, peut-être, il y a ce désir du grand nettoyage de printemps. On aime bien tout aérer, on aime bien tout revoir, qu'est-ce qu'on garde comme vieillerie à la cave, des choses dont on n'a pas besoin. À l'origine, c'était parce que peut-être que la lumière montre les choses qui se sont accumulées, montre la saleté aussi, mais il y avait chez les Juifs le besoin de nettoyer le levain, de passer derrière les placards, de passer derrière les fours où le levain, cette poudre blanche ou grisâtre, aurait pu tomber et faire le grand ménage. Verset 16, « Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun ouvrage ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. » Verset 17, « Vous observerez la fête des pains sans levain, Car c'est en ce jour précis que j'aurai fait sortir vos troupes du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Et verset 18, le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de la communauté d'Israël, que ce soit dans un pays immigrant ou un autochtone. Vous ne mangerez aucun pain levé, pas de baguette. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous mangerez des pains sans levain. Et donc, ça, c'est la Pâque juive. Ce qui est intéressant, c'est que les fêtes juives de l'Ancien Testament, ce n'est pas seulement des vieilles histoires, ce sont des prophéties. Elles ont d'abord une signification historique, c'est-à-dire qu'elles commémorent des événements historiques. Elles ont une signification aussi agricole, parce qu'on vivait dans une société d'agriculture, d'élevage. Elles ont une signification de sacrifice. À l'occasion de ces fêtes, on offrait des sacrifices à Dieu. Et puis finalement, je l'ai déjà dit, elles ont une signification prophétique. D'où l'intérêt, encore une fois, d'étudier l'Ancien Testament. Ici, on n'est pas seulement une église néo-testamentaire. Il y a des églises qui s'enorgueillissent de n'étudier que le Nouveau Testament. Quel dommage! Ils n'ont absolument rien compris à la Bible. C'est toute la Bible qu'il faut étudier, lire, connaître et laisser nous transformer. Parce que dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est annoncé. Dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est révélé. Et donc cette correspondance entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça doit être pour vous un sujet d'émerveillement constant. Pour moi, c'est une preuve que la Bible n'est pas un livre inventé par les hommes. La Bible a été écrite, Ancien Testament, Nouveau Testament, sur une période de 1500 ans, par plus de 45-50 auteurs complètement différents, venant de tous les niveaux sociaux, des rois, des paysans, des docteurs, des théologiens. Sur 3 continents, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, par en 3 langues, l'hébreu, l'araméen, qui était l'hébreu parlé à l'époque de Jésus, notamment, et le grec commun de l'époque. Et pourtant, il y a une harmonie fantastique, une harmonie frappante. Il y a un type d'ouvrage, un type de dictionnaire qui s'appelle en français une concordance. Une concordance. C'est un livre où on peut, une espèce de dictionnaire, où on peut regarder chaque mot qui apparaît dans la Bible et voir pour chaque entrée, pour chaque mot, là où il apparaît dans toute la Bible. Et c'est un formidable outil d'étude de la Bible lorsqu'on veut voir ce que la Bible dit du péché, ce que la Bible dit de la joie, ce que la Bible dit de la mort. On peut aller voir tous les passages. Et peut-être que nous avons quelques russophones parmi nous, mais on me dit qu'en russe, le mot utilisé pour concordance, c'est le mot symphonia, qui est le mot de symphonie. Parce que c'est comme une partition que tous ces thèmes, tous ces mots qui reviennent et qui font qu'il y a une unité qui ne peut pas avoir été fabriquée par l'homme. C'est l'unité que Dieu a mis par son Esprit Saint en inspirant sa parole. Et une autre histoire qui nous parle aussi de la Pâque du Nouveau Testament, c'est l'histoire d'Abraham et de son fils. Dans la Genèse, si vous voulez vous tourner juste un peu avant le passage que nous avons lu, Genèse 22, versets 6 à 8, pardon. Rapidement, l'histoire, c'est C'est Dieu qui demande à Abraham une chose inouïe. Vous savez peut-être qu'Abraham était très âgé, que Dieu lui avait promis une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel, aussi nombreuse que les étoiles du ciel ou le sable sur les plages de la mer, de la terre. Et il avait finalement, par un miracle, accordé un fils Isaac à Abraham et sa femme Sarah, un fils qui s'appelait Isaac. Isaac, ça veut dire éclat de rire. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu avait dit à Sarah, qui était vieille, qui avait passé l'âge d'avoir des enfants, de même que Abraham, lorsque Dieu lui avait dit « tu vas avoir un fils », elle avait éclaté de rire. Elle n'y croyait pas. Ce fils, c'est là que la première fois dans la Bible, le mot « amour » est utilisé. Dieu demande à Abraham de prendre ce fils, ton fils unique, celui que tu aimes. Va-t'en dans le pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Une chose inouïe. Dieu lui a promis un enfant et quand cet enfant est probablement dans l'âge presque adulte, probablement pas un petit bébé ou un petit enfant, mais on pense qu'il avait peut-être 16 ans ou un âge d'adolescent presque adulte, Dieu lui demande d'aller le sacrifier. Abraham n'y comprend rien, mais il fait confiance à Dieu. Et plus tard, nous apprendrons qu'en fait, dans ce récit, c'est cette foi qui fait de lui que Jésus le déclare juste. Ce n'est pas la perfection de sa vie, ce n'est pas la perfection de ses œuvres, c'est simplement cette foi. Cette foi lui fut comptée comme justice. Et verset 6, nous voyons comment Abraham emmène son fils. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit « Mon père !» Il lui répondit « Me voici mon fils !» Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Il commence à se poser des questions, le petit Isaac. Il se dit « Attends, là, il y a un problème. Là. On va sacrifier un agneau, mais je ne vois pas d'animal. » Et Abraham a cette réponse prophétique. Abraham répondit « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » À rapprocher de la présentation par Jean de Jésus dans Jean 1, chapitre 1, on saute au Nouveau Testament. Jean 1, chapitre 29. Verset 29, pardon, chapitre 1, verset 29. C'est Jean, l'évangéliste, qui leur dit, le lendemain, il vit, verset 29, il vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Paul nous dit dans 1 Corinthiens 5, si vous voulez vous y tourner aussi, versets 7 à 8, lisons même le verset 6. Paul s'adresse à une église qui avait des problèmes. Il leur dit « Il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Un peu de péché va corrompre toute l'assemblée. Purifiez-vous du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. » puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. La clé de Pâques, la clé de la fête de Pâques, c'est que Jésus s'est offert en sacrifice. Il s'est offert en sacrifice pour moi. Pour mes péchés. Et lorsque, à la fin des temps, l'ange de l'Éternel, lorsqu'il y aura le jugement, la colère de Dieu passera au-dessus de moi. Parce que au-dessus de moi, si j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, il y a comme cette croix de sang sur laquelle le jugement va passer. Pourquoi ? Parce que Jésus a pris mon péché à ma place. Le jugement est déjà passé par là. Et des fois, les juridictions humaines ont du mal à éviter la double punition, mais Dieu la respecte. Si le sang a été versé sur le compte de mes péchés, je n'ai plus, moi, à mourir, et j'ai la vie éternelle. Regardons juste dans Matthieu 16, verset 11, « Comment ne saisissez-vous pas ce que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé ?» C'est Jésus qui s'adresse à eux. « Mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent qu'il avait dit de se garder non pas du levain du pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Le levain des pharisiens, c'était notamment ce péché d'hypocrisie, de prétendre être ce qu'on n'est pas, de prétendre qu'on n'a pas de problème lorsque l'on en a, de prétendre qu'on est spirituel lorsqu'on ne l'est pas, de prétendre que l'on est joyeux quand on ne l'est pas, alors qu'on a plein de problèmes à l'intérieur. C'est prétendre qu'on dit la vérité alors qu'on ne la dit pas. Et c'est quelque chose qui mettait Jésus en colère, l'hypocrisie, le mensonge. Il acceptait tous les autres pécheurs parce qu'il reconnaissait qu'ils avaient péché. Mais le péché des pharisiens, c'est de dire « je suis mieux que ces pécheurs ». C'est comme l'histoire du publicain qui est du contraste entre celui qui dit « je suis pécheur » et celui qui ne dit pas, qui ne reconnaît pas qu'il est pécheur. Ça, c'est un premier levain, le levain des pharisiens. Qu'est-ce que le levain des sadducéens ? Ces gens-là, ils reniaient, ils contestaient, ils disaient que le surnaturel n'existe pas et que tout peut s'expliquer rationnellement, qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas de résurrection, ils pensaient qu'il n'y avait pas de miracle, qu'il n'y avait pas de puissance en dehors de Dieu, en dehors de l'homme, pardon, et que l'homme se suffisait à lui-même. Ça, c'est le levain de notre société. C'est le levain de ces gens qui se disent athées parce que tant qu'ils n'ont pas vu, ils ne croient pas. Comme c'est bête de dire ça. C'est les mêmes qui vont prendre un abonnement à Canal+, pour que des ondes qu'ils ne peuvent pas voir, ou des vibrations, des oscillations électriques dans les câbles qui vont venir jusqu'à leur maison, qu'ils ne voient pas, qu'ils ne peuvent pas voir, qu'ils sont invisibles. Et ils y croient. La preuve, c'est qu'ils dépensent de l'argent pour ces choses. Dans cette salle, on entend parler chinois. Et c'est pas charmant qui parle. Vous entendez pas ? Je vous garantis qu'on parle chinois dans cette salle. Il suffirait d'avoir le poste de radio branché sur la fréquence de Radio Pékin, onde courte ou onde moyenne, et vous entendriez. Vous ne voyez pas les ondes, et pourtant elles sont là. Dire qu'on croit que ce qu'on voit, c'est stupide. Il y avait un autre levain dans Marc 8, 14. C'est le levain des Hérodiens. Il leur dit, Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les pharisiens, on en a parlé, le levain d'Hérode ou des Hérodiens. On a vu dans le film de Mel Gibson un portrait de ce roi Hérode qui n'était pas bien brillant, mais qui était fidèle à l'image que ces gens vivaient pour le plaisir, pour le confort, pour le luxe, pour le statut, pour le prestige, la faveur des gens. Et il manipulait les choses politiquement pour s'avancer et pour garder le statu quo. Pierre nous dit, 1 Pierre 1, 18-20, on va pas multiplier les citations, mais celle-là est importante. Vous savez en effet que ce n'est point 1 Pierre 1, 18 à 20, page 263 dans la Bible de la Colombe, vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous vous souvenez du petit agneau auquel les enfants s'étaient attachés, un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Nous sommes justifiés par son sang, Romains 5,9. Nous avons la rédemption par son sang, dans Éphésiens. Nous sommes devenus proches par son sang. Nous sommes sanctifiés par son sang, Hébreux. Nous sommes purifiés de tout péché par son sang. Il y avait une publicité il y a quelques années qui disait qu'il y avait une lessive qui s'appelait Homo. Et Homo, c'était la meilleure lessive. Pourquoi ? Parce que Homo était plus fort contre les taches, mais il était plus tendre avec le linge. Et ça, c'est le sang de Christ. Alors, pardonnez-moi pour cette mauvaise comparaison, mais le sang de Jésus, il est tout puissant pour pardonner nos péchés. Il est le plus fort contre les taches. Mais ce sang, il est doux aussi avec les pécheurs. Jésus vient avec amour nous proposer son salut. Il nous dit de prendre notre croix avec lui, et on sait que la croix, c'est pas facile, mais il est présent, il vous aime, il vous montre de la tendresse. Alors vous me direz tout ça, et les œufs de Pâques, c'est quoi ? Pâques, puisque c'était le premier dimanche après suivant l'équinoxe de printemps, c'était au printemps. Et les païens avaient une fête, justement, pour célébrer le printemps, la vie, le retour de la vie, les arbres qui recommençaient à avoir des feuilles pour ceux qui les avaient perdus, les fleurs qui commençaient à pousser, les animaux qui avaient des enfants. Les œufs, c'était un symbole de vie. Donc les gens s'offraient des œufs. Et puis il y avait les cloches de Pâques. D'où elles viennent de Rome, on nous disait. Ça, c'est la tradition catholique. Parce qu'avant la célébration de Pâques, il y avait une fête de deuil, le carême. Et pendant ce temps-là, pendant le carême, les cloches ne sonnaient plus. Et puis, le jour de Pâques, elles se remettaient à sonner pour célébrer sa résurrection. Il est vivant, elles disaient. Ding, dong, ding, dong. Et les enfants disaient, mais qu'est-ce qui se passe ? Et les gens disaient, elles sont allées à Rome, elles ont fait le voyage avec des petites ailes, et elles revenaient avec les œufs en chocolat. L'histoire des chocolatiers, ça doit être un coup des Suisses. Ou du moins des commerçants qui se sont dit, on va faire des confiseries qui vont nous permettre de vendre des choses. Ça, c'est le syncrétisme. L'Église, pour s'implanter, a utilisé des choses païennes et les a transformées, soi-disant, en foi chrétienne. Et donc, la fête de Pâques retrouve ses origines païennes. Mais il est intéressant de réaliser que Dieu avait tué un animal pour vêtir Adam et Ève. Il avait dû sans doute tuer peut-être un agneau pour une personne. La Pâque juive, c'était un agneau pour une famille. Le jour du Yom Kippour, le jour de l'expiation, le jour du grand pardon, on sacrifiait aussi un animal pour toute une nation. Mais Christ, lui, il s'est sacrifié pour toute l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, comme Abraham avait donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Personne, j'ai oublié de vous dire que Dieu avait retenu la main d'Abraham lorsqu'il allait sacrifier son Fils, et qu'il avait pourvu un agneau ou un bouc qui s'était pris dans un buisson à côté de l'endroit du mont Moria. Et on pense que c'est exactement l'endroit où 1500 ans plus tard, Jésus a été sacrifié, où le Père n'a pas retenu sa main. Nous avons chanté tout à l'heure, le Père détourne le regard. Dans le film, il y a une très belle image à la fin lorsque Jésus vient de rendre l'âme sur la croix. On a une vision panoramique du ciel et on voit une goutte, une larme qui descend du ciel, qui nous rappelle que Dieu nous a donné son propre Fils et que nous sommes vraiment des imbéciles. Nous n'avons rien compris si nous ne croyons pas qu'avec lui, il va nous donner aussi tout ce dont nous avons besoin. Dieu a de bons plans pour votre vie. Il vous aime, c'est ce que la croix affirme. Nous l'avons chanté aussi, on voit la croix, on connaît l'amour de Dieu. Quelles que soient nos circonstances, et nos circonstances, je sais que parmi nous, il y en a sans doute qui ont des circonstances tragiques, des circonstances difficiles, qui ne se sentent pas aimés, mais Dieu aujourd'hui veut vous dire, regardez combien je vous aime, je vous ai donné mon Fils. Et j'ai accepté son sacrifice parce qu'aujourd'hui, il est ressuscité, il est vivant, il veut changer vos vies, il veut que vous veniez à lui, que vous marchiez avec lui. Il veut vous donner une vie abondante. Pas seulement la vie éternelle dans le futur, mais rien que maintenant. Il a de bons plans, il va vous donner un sens à votre vie. Les gens disent, oh, on est un accident cosmique, il n'y a pas de Dieu. Puis après, ils essayent d'appeler les psychologues pour dire, il y a une tragédie, allez leur dire que ça va. Non, ça ne va pas s'il n'y a pas de Dieu qui les aime. J'ai rien contre les psychologues, mais c'est vrai qu'on appelle ces cellules de psychologues quand il y a une catastrophe aérienne. Il n'y avait aucune explication logique au fait que le sang sur le chambranle de la porte apportait une protection. Pourquoi est-ce que la colère divine était suspendue ? C'est par la foi qu'il faisait cela. Et de la même façon, c'est par la foi que vous mettez votre confiance en Jésus. Vous dites, j'y comprends rien, mais j'ai l'impression que ça pourrait marcher. Faites cette démarche et vous verrez comment Jésus va répondre. Son esprit va venir témoigner à votre esprit que vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez un Père qui vous aime, qui vous adopte et qui vous donne tout en héritage. Il y a une règle dans Hébreux 9, 22. On nous demandait l'autre soir, après ce film, pourquoi est-ce qu'il faut des sacrifices avec du sang ? La Bible répond que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et la vie est dans le sang. Lorsqu'il y a péché, pour que la justice de Dieu passe, il faut que le sang coule. C'est sanguinaire, je ne veux pas. Je veux un autre Dieu, je veux un Dieu gentil. Votre Dieu est plus que gentil. Il ne vous met pas à mort, il a mis à mort son propre fils. Et il vous dit, acceptez ce sacrifice et vous êtes au bénéfice de son amour, de sa sainteté. Vous êtes justifié, vous êtes déclaré juste par moi. Ça, c'est le message de Pâques. Ce sacrifice de la croix, nous le commémorons chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, qui rappelle la fête de Pâques que Jésus a célébrée avec ses disciples la veille de sa crucifixion. Nous allons aujourd'hui prendre la Sainte Cène. Et la question c'est, est-ce que vous savez que vous êtes pécheur? Est-ce que quelqu'un n'a jamais péché? Je ne vais pas demander de lever la main. Ce serait embarrassant. Et en le faisant, vous feriez votre premier péché. Celui de présumer que vous êtes innocent. Peut-être par orgueil ou par incompréhension. Mais votre péché, il doit être jugé. Et soit ce péché, il est sur vous, et vous subirez la colère de Dieu, ou soit ce péché, vous l'avez symboliquement mis sur Jésus. Une chose terrible qui est dite dans 2 Corinthiens 5, et ce sera ma dernière citation, pardonnez-moi pour toutes ces citations, c'est que Dieu a fait un échange incroyable. Pour que nous soyons réconciliés avec lui, celui qui n'avait pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous. Pensez à toutes les horreurs que vous avez peut-être commises, en pensée, en action. Pensez à toutes les horreurs qui ont été commises dans l'histoire de l'humanité. Tous les péchés, les violences, les viols, les meurtres, les corruptions, les choses les plus terribles, les camps de concentration, les morts, tout ça, il est devenu péché pour nous. Il a été séparé de Dieu. C'est pour ça qu'il a crié, « Pourquoi m'as-tu abandonné, Père ?» Eli, Eli, sabachthani. Parce que, portant notre péché, il ne pouvait plus avoir la communion avec le Père et le Saint-Esprit avec qui il l'avait connu depuis toute éternité. Et Dieu, il a fait devenir péché pour nous, celui qui n'avait pas connu le péché. Pour que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est un échange incroyable. Vous lui donnez vos péchés, toutes vos horreurs, toutes mes horreurs, et il vous donne la justice de Jésus. Il vous voit complètement pur, il vous voit complètement blanc, il vous voit complètement saint. Ça, c'est Pâques. Et soit votre péché, il est sur, vous l'avez mis sur le dos de Jésus, qu'il a reçu, et pour qui le jugement est tombé. Et ce sera vraiment Pâques pour vous, au jour du jugement. Ou alors, votre péché, vous l'avez encore sur vous. Et là, vous serez détruit. Pas annihilé, vous vivrez pour toujours loin de Dieu. C'est ça l'enfer. Il y a un endroit réel. Prions. Seigneur, merci pour Pâques. Merci parce que tu es venu pour nous sauver. Et Seigneur, peut-être que parmi nous, il y en a qui ne sont jamais encore venus à toi. Et si c'est votre cas, je vous invite à prier en silence. Mon Dieu, je suis un pécheur, je fais des choses mauvaises. J'ai besoin de ton pardon. je regrette mes péchés, je te demande de me pardonner. Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Tu es vivant. Je t'ouvre maintenant la porte de ma vie, la porte de mon cœur, et je t'invite à venir dans ma vie. Je réalise que je ne peux rien faire pour mériter ton amour, ton salut. Je mets toute ma confiance en toi pour la vie éternelle. Merci de faire de moi la personne que tu désires. Merci de me transformer. Merci d'écouter cette prière et de me donner la vie éternelle. Amen.